Chapitre 12. Le traité. Suite. La Rhénanie indépendante. Pouvions-nous vraiment créer une Rhénanie indépendante? Le problème vaut la peine d'être posé. Encore faut-il d'abord éviter résolument les biais qui s'offrent à nous détourner du droit chemin. Avec un homme comme le maréchal Foch, il n'y a même pas de discussion possible. Du moment où sa stratégie le veut, il faut que les Rhénans s'empressent à notre artillerie. Il peut se passer d'autres raisons puisqu'il s'agit d'un a priori. Bien entendu, cela n'empêche pas de trouver des raisons supplémentaires à l'usage des faibles qui s'en tiennent encore aux faiblesses de l'expérience et du raisonnement. Les Rhénans sont-ils des Celtes comme nous-mêmes? Je n'en suis pas bien sûr, mais on peut toujours le dire, car pour les caractéristiques positives d'un Celte, ne me les demandez pas. Les Bavarois nous sont particulièrement donnés pour Celtes. Ils ont été les plus impitoyables parmi les ravageurs de notre territoire en 1870 et en 1914 contre leurs frères celtes du pays français. Ils se sont mal battus pour défendre leur propre indépendance qui a sombré à Sadowa dans la paix de Bismarck. Pour s'asservir, ils n'ont rien épargné. Leur ambition d'aujourd'hui est de se prussianiser à la manière de ce qui reste de l'Autriche qui demande l'Anschluss pour la gloire des coups de bâton de Berlin. Les Rhénans, j'en conviens, ont mieux résisté. Ils accusent une souffrance de la lourde main prussienne. Notre enfantillage est de croire trop vite que leur incomplète prussianisation les dispose à devenir français. À l'heure, cependant, où les soldats de la Révolution française bousculaient l'envahisseur germanique en appelant les peuples aux réalisations universelles des droits de l'homme, les hommes du Rhin se trouvaient, comme en d'autres pays, pour acclamer la France et s'offrir en conquête morale aux décrets de justice et de liberté. Le 13 novembre 1793, Georges Forster, mayençais, dans un discours au Club républicain de Mayence, nous offrait le Rhin pour frontière française. Et la Convention nationale rhéno-germanique nous envoyait des délégués pour s'offrir à l'incorporation française. Mais depuis ces jours, que de changements dans les deux pays. Napoléon a promené dans l'Europe le drapeau de la Révolution française, mais avec des dispositions de conquérant qui imposaient sa volonté par la force des armes. Depuis ces jours, Sadowa et Sedan ont puissamment soudé les articulations de l'Allemagne. De Mirabeau à Napoléon, nous-mêmes, nous avons changé. Pourquoi l'attraction exercée par nous sur les Rhénans, comme sur d'autres peuples, ne se serait-elle pas modifiée? Au moment de l'armistice, la situation de l'Allemagne se caractérisait par deux mots, défaite et révolution. C'était alors que d'anciens souvenirs semblèrent se réveiller. Après l'armistice de 1918, l'occupation de la rive gauche du Rhin se fit dans les conditions prévues. Nos soldats ne furent pas mal accueillis. Ce qu'on a appelé la première manifestation de l'idée autonomiste eut lieu le 4 décembre 1918. Ce jour-là, dans une réunion populaire tenue à Cologne, des orateurs de divers partis, non dénommés, parlèrent avec ardeur des aspirations rhénanes. L'Assemblée prit ensuite la résolution suivante. 5 000 citoyens rhénans, réunis le 4 décembre 1918 à Cologne, considérant les profondes transformations politiques qui se produisent en Allemagne, reconnaissent l'impossibilité de former à Berlin un gouvernement stable, persuadés que les régions rhénanes ainsi que la Westphalie possèdent suffisamment de forces politiques et économiques pour former un État distinct, déclarent leur volonté inébranlable de maintenir l'unité allemande et de travailler à la constitution d'un nouvel État allemand composé des régions rhénanes et de la Westphalie. L'Assemblée invite donc les représentants officiels du peuple rhénan et westphalien à proclamer le plus tôt possible la fondation d'une république autonome rhéno-westphalienne dans le cadre de l'Allemagne. Vive la liberté rhénane! Si l'on veut voir là l'indication d'un mouvement d'autonomie dans la direction de la France, avouez qu'il faut singulièrement forcer le sens des mots. Tout au contraire, y peut-on reconnaître clairement le besoin de constituer un État allemand sous la protection des troupes d'occupation appelées à protéger la liberté rhénane du danger des révolutions de Berlin à l'appel des soviets propagandistes redoutables. Le lendemain, 5 décembre 1918, eut lieu, toujours à Cologne, la première réunion de la Ligue pour la liberté rhénane. Cette fois, nous connaissons les orateurs. Ce sont Herr Professor Dr. Eskert, démocrate, Herr Dr. Höber, centriste, et Herr Mehrfeld, député socialiste. La liberté rhénane fut acclamée. L'idée, comme dit M. Vielmazel, faisait son chemin. Le professeur Klaus Krömer publiait, dans la Gazette populaire rhénane, une série d'articles dans lesquels le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes était consciemment établi et discuté. On voit assez clairement que M. Klaus Krömer réclamait ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour leur permettre de se séparer de l'Allemagne et d'échapper à la domination des Alliés. Quelques semaines s'écoulèrent. Le bourgmestre de Cologne, Adenauer, avait pris la direction du mouvement. Le 1er février 1919 furent mandés à Cologne tous les députés rhénans qui venaient d'être élus à l'Assemblée nationale et les bourgmestres des villes rhénanes. Il s'agissait de proclamer solennellement la fondation de la République rhénane. Que se passa-t-il? Sous l'influence d'Adenauer, on se contenta d'élire un comité qui reçut la mission de travailler à la constitution d'une Rhénanie autonome dans le cadre de l'Allemagne. Combien de fois le comité tint-il séance? Pas une seule fois. Dès le lendemain, ces mêmes gens laissaient tomber le masque. La Gazette rhénane, organe de Solman, l'un de ceux qui s'étaient dit les partisans enthousiastes d'un État rhénan, déclarait qu'on saurait bien étouffer les aspirations séparatistes. Le journal ajoutait « La question rhénane n'est pas encore mûre pour une discussion ». Telle fut la proclamation de la République rhénane à Cologne. Voyons ce qui se passait à Landau. Le 22 février 1919, ce qu'on appelle pompeusement une assemblée de notables se réunissait à l'hôtel Schwan à Landau. 45 personnes y assistaient, dont deux députés à l'Assemblée nationale, messieurs Richter et Hoffmann du centre. Tous ces notables donnaient des signes de la plus vive émotion. Berlin et Munich étaient en proie à l'émeute. Le député Hoffmann prononça un discours où il disait notamment « Nous sommes devant le fait ». Un peuple mal conduit a sombré du haut de sa civilisation dans une barbarie abominable, dans le bolchevisme et la lutte fratricide. Conclusion, la résolution suivante fut votée à l'issue de la réunion. Un très grand nombre de palatins désirent voir se constituer une république autonome du Palatinat. Ceux qui représentent cette idée sont convaincus que la réalisation de ce plan ne peut se faire qu'en accord avec la conférence de paix. S'appuyant sur le principe du droit de libre disposition des peuples, il prie M. le général commandant l'armée du Palatinat de vouloir bien transmettre ce désir à la conférence de paix. La façon dont on pourra entreprendre l'exécution de cette idée dépendra de l'avis donné par la conférence. M. Vielmazel ajoute « Une copie de ce document historique fut portée par un officier supérieur au maréchal Foch » qui fit répondre que, sous peu, les palatins pourraient parler ouvertement et que des garanties leur seraient données pour qu'ils pussent agir sans avoir à craindre le retour des autorités allemandes. Le malheur est que, comme pour la manifestation de Cologne du 4 décembre 1918, il ne s'agit là, dans l'esprit de ces « notables », que d'une mesure destinée à sauver les peuples rhénans de la contamination révolutionnaire de Moscou. Et la preuve en est dans l'attitude ultérieure d'Hoffmann, le président du Parti populaire bavarois, qui paraît avoir joué lors de la réunion de Landau un rôle capital. Le 12 avril 1919, moins de deux mois après, il écrivait « Notre profession de foi en faveur de l'esprit allemand est une chose indiscutable ». Ce qui n'empêche pas M. Vielmazel de conclure « À ce moment, il semble bien que la France n'a qu'un signe à faire pour que naisse, sans l'ombre d'opposition, la République palatine. » Où a-t-il vu cela? Venons-en aux événements qui se déroulèrent à Mayence et à Wiesbaden. En janvier 1919, des comités s'étaient formés à Mayence et à Wiesbaden pour travailler avec Cologne. Réunis en un comité Nassau-Hesse-Rhénan, ces comités chargèrent le docteur Dorten, ancien magistrat, d'entrer en relation avec Cologne, et c'est ainsi que Dorten assista à cette fameuse réunion du 1er février dont j'ai parlé plus haut. Lorsque le comité Nassau-Hesse-Rhénan apprit que le comité rhénan institué à Cologne ce 1er février ne s'était pas réuni une seule fois pendant le mois de février, il remit, le 27 février, un ultimatum au bourgmestre Adenauer, le sommant d'obtenir avant le 4 mars une déclaration formelle de ce comité. Le 4 mars, Adenauer répondit qu'il ne pourrait rien faire, que le gouvernement de Berlin s'opposerait à tout mouvement séparatiste. Le contraire eût été surprenant. Alors le comité Nassau-Hess-Rhénan décida d'agir seul. Il fit la déclaration suivante. Premièrement, nous demandons que notre sort soit réglé par nous-mêmes. Deuxièmement, nous sommes Allemands et voulons par conséquent rester dans le cadre de l'Allemagne. Troisièmement, nous protestons contre toute cession de territoire rhénan à l'ouest et contre toute forme de gouvernement qui peut nous être imposée. La province rhénane, Nassau et la Hesse-Rhénane sont un seul territoire. Le rattachement du Palatinat de la Westphalie et d'Odelbourg est vivement désiré. Quatrièmement, nous sommes fermement persuadés que la réalisation de notre désir assure la paix des peuples. L'État autonome constitué par la décision des territoires rhénans ci-dessus désignés sera une république pacifique. Elle offre la garantie nécessaire pour la paix européenne, oppose une digue au fiel bolcheviks et assure les rapports paisibles de l'Est et de l'Ouest. Cinquièmement, nous voulons donc la fondation immédiate d'une république occidentale allemande et espérons que les autorités compétentes autoriseront sans retard un plébiscite. Sixièmement, le comité, formé à Cologne le 1er février 1919, s'étant abstenu de toute activité, est considéré comme dissous. Bien que rédigée dans un style assez obscur, la déclaration indique nettement deux choses. Premièrement, les Rhénans veulent rester allemands. Deuxièmement, ils s'opposent à toute cession de territoire à l'ouest. Nommé premier délégué, Dorten fut chargé de remettre ce document aux généraux commandant à Cologne, Coblence et Mayence, avec prière de transmettre à leur gouvernement. À la suite de quoi, déclare la République rhénane, des comités locaux se formèrent dans toutes les villes rhénanes importantes afin de recueillir des signatures. Il paraît, c'est toujours la République rhénane qui parle, que ce fut partout un succès absolu. À Aix-la-Chapelle, par exemple, 52 000 électeurs de tous partis et de toutes classes demandèrent le plébiscite immédiat. Et c'est alors, en avril semble-t-il, que le général Mangin entreprit d'accorder à Dorten l'aide dont celui-ci avait si grand besoin pour tirer quelques réalités politiques de ces manifestations plutôt confuses. Des conversations eurent lieu entre Dorten et le général Mangin, qui ne m'en a pas rendu compte. Le 17 mai, une délégation des comités d'Aix-la-Chapelle et de Nassau-Hess-Rhénan, à laquelle s'étaient joints deux députés rhénans, Kastert et Kuckhoff, était reçue par Mangin et lui exposait le désir des populations rhénanes. Quelques jours à l'avance, ils avaient, singulière précaution, prévenu le gouvernement allemand de la démarche qu'ils allaient faire, et après l'entretien qu'ils avaient eu avec le général Mangin, Kastert et Kuckhoff se rendirent à Berlin pour renseigner Schneidermann. Que fit alors le gouvernement allemand ? Il déclara que les partisans du mouvement rhénan étaient coupables de crimes de haute trahison et passibles des travaux forcés ou de l'incarcération en perpétuité en vertu du paragraphe 81, chiffre 3, du code pénal allemand. Cette déclaration, dit la République rhénane, intimida bien les esprits timorés. Ce fut partout une tempête de malédictions et de calomnies. Kastert et Kuckhoff durent démissionner. À ce moment, le président Wilson se manifesta. Le 23 mai, il m'adressait la lettre suivante. « Mon cher monsieur le président du Conseil, je viens de recevoir un message du général commandant notre armée d'occupation qui me cause un très sérieux souci. Il a la teneur suivante. Ce matin, le général Mangin, général commandant l'armée française de Mayence, a envoyé un colonel de son état-major au quartier général du général Liguet à Coblence pour demander quelle serait notre attitude à l'égard d'une révolution politique sur la rive gauche du Rhin en vue de l'établissement d'une république rhénane libre indépendante de l'Allemagne. Il a demandé quelle serait l'attitude américaine à l'égard d'une telle nouvelle république. L'officier d'état-major assure qu'on avait 50 députés prêts à venir dans le secteur américain pour aider à la mise en mouvement de la révolution. Le sens du mot « député » dans cette relation n'a pas été clairement compris, mais il était manifeste qu'il s'agissait de Français. Le général Liguet a refusé, avec juste raison, de prendre en considération cette proposition et son attitude à mon entière approbation. il a été donné des instructions pour interdire l'entrée d'agitateurs politiques dans notre secteur, quelque ordre qu'ils puissent invoquer pour leur action, et je me sens persuadé que ces instructions rencontreront votre propre approbation. Cordialement et sincèrement vôtre, Woodrow Wilson. Au reçu de cette lettre, je chargeai M. Jannet, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, de se rendre sur place afin de se livrer à une enquête. Le 24 mai, M. Jannet s'entretenait à Mayence avec les généraux Fayol et Mangin. Le 25, à Coblence, il recueillait les explications du colonel d'Anvigne qui, de la part du général Mangin, était allé trouver le général Liguette. Puis, assisté d'un interprète, M. Jannet se rendait auprès du général Liguette qui répondait à ses questions. De retour à Mayence, il avait une nouvelle entrevue avec le général Mangin. Le 26, il repartait pour Paris et établissait son rapport. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes. Il était dit dans le message adressé le 23 mai au président Wilson que 50 députés s'apprêtaient à venir dans le secteur américain. Il ne s'agissait pas là de députés français, mais bien de députés allemands. Deuxièmement, la République, dont la proclamation était annoncée, ne devait pas être, comme le prétend le même message, libre, indépendante de l'Allemagne. Elle devait être, au contraire, allemande. Troisièmement, le général Mangin avait envoyé le colonel d'Anvigne au général Liguette pour lui exprimer l'avis qu'il n'avait pas le droit d'empêcher le peuple rhénan de manifester sa volonté. Il avait également envoyé, porteur du même message, un officier au général Robertson, commandant l'armée anglaise d'occupation, et un officier au général Michel, commandant le secteur belge. Ce faisant, le général avait nettement outrepassé ses fonctions. Il était sorti du cadre de ses fonctions, étant admis pour moi, déclare M. Jannet, que le commandant d'un secteur français ne pouvait, sans qu'il en eût été référé au gouvernement, se prononcer d'avance sur le mérite d'une nouvelle constitution politique du pays dont il était chargé de contrôler, que dire de l'acte qui consiste à porter sur ce point des avis dans le secteur d'une armée alliée. L'abus est trop manifeste. Quatrièmement, le général Mangin avait entretenu avec les promoteurs du mouvement séparatiste des rapports fréquents, plus fréquents qu'il n'eût convenu, et on pourrait être porté à voir là une sorte de collaboration. C'est ainsi que, le 17 mai, un premier programme d'établissement de la République rhénane lui ayant été présenté, il l'avait déclaré inacceptable. Le docteur Dorten en rédigea un autre, dont le général Mangin reçut connaissance le 19. Cette fois, il déclara ne plus faire d'objection. Maintes autres conversations directes et indirectes suivies. Que devenait dans tout cela la stricte neutralité qui, pour un chef d'armée d'occupation, est le premier des devoirs? Au même moment, à la conférence de la paix, je bataillais pour obtenir l'occupation de la rive gauche du Rhin pendant 5, 10, 15 ans, et je disais à l'Angleterre et à l'Amérique « Soyez tranquilles, nous n'avons aucune visée annexionniste. Un soldat a-t-il le droit d'engager son gouvernement sans l'en avoir informé en une telle aventure ?» Il était trop facile de voir dans cette collaboration du général Mangin avec Dorten une entreprise susceptible de préparer la désagrégation de l'Allemagne et l'agrégation de la Rhénanie au territoire français. Le 26 mai, comme je l'ai dit, M. Jannet repartait pour Paris après avoir rappelé le général Mangin à une plus haute compréhension de la tâche qui lui était confiée. Le 1er juin, Dorten faisait afficher ou publier à Aix-la-Chapelle, Mayence, Wiesbaden et Spire la proclamation suivante. « Au peuple rhénan, le moment est venu de contribuer, nous aussi, à l'établissement de la paix des peuples. Le peuple rhénan demande à être entendu en cette heure d'angoisse dans laquelle son sort se décide. Toute influence extérieure doit céder devant cette décision inébranlable, née du principe universellement connu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le peuple rhénan veut sincèrement une paix qui soit la base de la réconciliation de tous les peuples. C'est pour cette raison qu'il se détache spontanément des institutions qui sont la cause de tant de guerres, féodalité dégénérée et militarisme. Il élimine ainsi à jamais l'obstacle qui s'oppose à toute véritable paix. Le projet de traité de paix est nécessité, d'une part par les exigences du droit et de la justice, reconnues aussi par le gouvernement allemand, réparer les énormes dommages et dévastations subis par la France et la Belgique, et donner des garanties suffisantes contre le retour de nouvelles guerres. D'autre part, il représente un fardeau terrible pour le peuple allemand. Le plus haut devoir du peuple rhénan est d'aider de tout son cœur à la réconciliation générale et définitive des peuples. Nous déclarons donc ce qui suit. Une république rhénane est fondée dans le cadre de l'Allemagne. Elle comprend la province rhénane, le vieux Nassau, la Hesse rhénane et le Palatinat. Cette fondation a lieu sur les bases suivantes. Premièrement, les frontières restent comme par le passé, Birkenfeld inclus. Deuxièmement, des changements de frontières ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation des populations intéressées. Cette approbation sera établie par un plébiscite. Le gouvernement provisoire est formé de délégués des comités sous-signés. Il demandera immédiatement l'autorisation de procéder sans retard aux élections de l'Assemblée rhénane d'après le mode électoral en vigueur pour cette Assemblée nationale et de réunir de suite cette Assemblée. Koblenz sera le siège du gouvernement et de l'Assemblée rhénane. Provisoirement, le gouvernement siège à Wiesbaden. Les administrations provinciales et communales continuent leur activité jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement provisoire prend la place des gouvernements centraux prussiens, hessois et bavarois. Vive la République rhénane. Signé le comité rhénan, le comité Nassau-Hesse-Rhénan, le comité palatin, Aix-la-Chapelle, Mayence, Spire et Wiesbaden, le 1er juin 1919. Le même jour, les dépêches suivantes étaient envoyées à Dorten, aux alliés, au président de la République allemande et à Schneidemann, président du Conseil allemand. Dépêche à la conférence de la paix et aux puissances occupantes. Les délégués de la Prusse rhénane, du vieux Nassau, de la Hesse rhénane et du Palatinat, répondant aux vœux impératifs exprimés depuis plus de 6 mois par les populations rhénanes, après en avoir délibéré à Aix-la-Chapelle, à Wiesbaden, à Mayence et à Spire, proclament à la date du 1er juin l'autonomie de la République rhénane dans le cadre de l'Allemagne. La nouvelle République aura pour capitale Koblenz. Le siège du gouvernement est provisoirement établi à Wiesbaden. Désireux de hâter de tout leur pouvoir la conclusion de la paix, désireux d'éviter toute complication et toute délibération nouvelle, les délégués demandent à la conférence de la paix de reconnaître purement et simplement l'existence du nouvel État dont une consultation populaire fixera le statut. Fidèle à sa patrie, que des malheurs inouïs viennent de frapper, mais conscient de la responsabilité terrible que le militarisme a fait encourir à l'Allemagne tout entière, le nouvel État ne cherche aucun moyen détourné pour se dérober aux charges qui lui incombent dans la réparation des dommages causés à la France et à la Belgique. Les populations rhénanes, désireuses de disposer librement d'elles-mêmes, sont résolues à se séparer définitivement de la féodalité et du militarisme prussien, ennemis de leurs souvenirs et de leurs traditions. Elle demande aux puissances alliées ou associées de les protéger dans le présent et dans l'avenir contre la rancune et la vengeance des fonctionnaires incapables de comprendre la justice et la noblesse de leurs aspirations, contre tous ceux qui menacent déjà de leur prison et de leur forteresse les partisans des libertés rhénanes. Elle compte sur elle pour assurer, d'une façon complète, la liberté des élections prochaines qui vont fixer le statut de la nouvelle République. Vive la République rhénane, vive la liberté. À Monsieur le Président Ebert, Berlin. Monsieur le Président, au nom du gouvernement provisoire de la République rhénane, j'ai l'honneur de vous communiquer la proclamation en date du 1er juin 1919 de la République rhénane dans le cadre de l'Allemagne. Le peuple rhénan a clairement montré depuis la Révolution qu'il veut décider lui-même de son sort. Il veut absolument rester dans le cadre de l'Allemagne, mais en formant un tout unique. Il lui faut pour cela se séparer des différents États particuliers. Le gouvernement allemand n'a pas accédé à ce désir, de sorte que nous sommes forcés d'agir de nous-mêmes. Nous porterons les charges de la guerre de toutes nos forces. Notre plus saint devoir sera de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour amener une renaissance paisible de notre patrie si éprouvée et pour lui permettre de prendre part, en membre estimé de la Société des Nations, aux grandes tâches de l'avenir, la paix et la réconciliation des peuples. Signé Dr. Dorten. À Monsieur le Président du Conseil, Monsieur Schneidemann, Berlin, au nom du gouvernement provisoire de la République rhénane, j'ai porté à la connaissance du président de la République allemande la proclamation qui a lieu aujourd'hui d'une République rhénane dans le cadre de l'Allemagne. ainsi que les motifs qui nous ont poussés à cet acte, afin de manifester de suite notre brûlant désir d'aplanir la voie pour la paix et la réconciliation des peuples, j'ai notifié cette proclamation à M. le Président de la Conférence de la paix à Versailles et au gouvernement des puissances d'occupation par l'intermédiaire de leurs autorités militaires. En même temps, j'ai demandé l'autorisation de procéder immédiatement aux élections de l'Assemblée rhénane ainsi que d'envoyer des délégués à la Conférence de la paix. Je vous adresse la même demande avec la prière de permettre notre collaboration avec la délégation allemande de la paix. Signé, Dr. Dorten. Le général Mangin, ayant adressé à M. Poincaré le télégramme qui lui était destiné, le président de la République me transmettait ce télégramme ce même 1er juin en l'accompagnant de ces mots. Je suppose que le général ne me transmettrait pas cette adresse si le mouvement n'était pas sérieux, et s'il est sérieux, j'espère que les alliés ne nous forceront pas à le comprimer. La République rhénane se constituant dans le cadre de l'Empire d'Allemagne, ce n'est même pas un acte de séparatisme, et une consultation populaire étant d'autre part annoncée, il n'y a rien là, me semble-t-il, qui puisse choquer le président Wilson. Il serait à mon avis très fâcheux que nous puissions prendre parti contre ces velléités, bien timides encore, d'indépendance. La protestation, cette fois, ne vint pas du président Wilson. Elle vint de la délégation allemande de la paix qui, le 3 juin, m'adressait deux longues notes, l'une signée Herzberger et l'autre Brockdorff-Franzau. Herzberger et Brockdorff-Franzau disaient en substance « Les tendances séparatistes ne sont pas seulement tolérées par les autorités militaires françaises, mais même ouvertement appuyées par elles ». M. Jeannet repartit pour Mayence, revit le général Mangin qui déclara « Quand Dorten proclama la République, ce fut pour moi une surprise », ce qui était proprement se moquer du monde. On répondit à la délégation allemande, du temps passa. Que devint la République du docteur Dorten? M. Vialmazel, ami du général Mangin, déclare « Ses efforts furent sans suite ». Et M. Vialmazel ajoute « Il est permis de penser que cette première manifestation véritable de l'esprit d'indépendance aurait réussi si les autorités françaises n'avaient pas été tenues par des ordres impératifs de conserver la neutralité la plus absolue. » En d'autres termes, nous n'avions qu'à conquérir la Rhénanie pour qu'elle devint indépendante. On a vu comment, en 1919, s'étaient déroulés les événements de Landau, Cologne, Mayence et Wiesbaden. Pendant quelques années encore, les derniers fidèles de l'idée autonomiste devaient continuer leur campagne. Et chez nous, en France, un homme devait continuer à fonder de grandes espérances sur les efforts des séparatistes. Cet homme était M. Poincaré. Le 23 novembre 1923, étant président du Conseil, il disait encore à la Chambre « Il est trop tôt encore, sans aucun doute, pour prédire ce qui sortira des événements qui se déroulent dans les territoires occupés. Mais, dans certains endroits, tels que Trèves et le Palatinat, la tendance à une indépendance totale paraît très puissante, et dans les villes les moins favorables à un séparatisme complet, il y a certainement un désir croissant d'autonomie. Nous pouvons donc nous attendre tôt ou tard à des changements dans la constitution politique de tout ou partie des pays occupés. » Et 3 mois après, comme répondant à ce discours, c'étaient les tragiques événements de Pirmasens. Le 12 février 1924, à Pirmasens, ville du Palatinat, se déroulaient les faits qu'un témoin oculaire raconte de la façon suivante. Dès le début de la matinée de mardi, une foule nombreuse, composée presque exclusivement de bandes nationalistes armées provenant de la rive droite du Rhin, s'était massée devant le bâtiment du gouvernement occupé par une quarantaine de séparatistes sous le commandement du commissaire au gouvernement palatin autonome, M. Schwab, et réclamait le départ des séparatistes. Ces derniers refusant énergiquement de quitter leur quartier général, la foule semblait se disperser lentement lorsque, vers 5 heures de l'après-midi, les assaillants se sont portés à l'assaut du bâtiment à l'aide de bombes et de grenades. Les séparatistes, qui s'étaient barricadés, se défendaient de leur mieux lorsque les bandes nationalistes, ayant arrosé le bâtiment d'essence, y ont mis le feu. Étouffant au milieu des flammes et de la fumée, atrocement brûlés, les séparatistes ont demandé grâce et se sont rendus. obligés de sortir l'un après l'autre du bâtiment en flammes, ils ont été odieusement massacrés à coups de haches et de couteaux. Les nationalistes ont fait preuve à leur égard d'une véritable sauvagerie et n'ont fait aucun quartier. Leur acharnement ne s'est pas même arrêté devant les cadavres qui, tailladés à coups de couteau, ont été jetés dans le brasier. On déplore la mort de la presque totalité des séparatistes et on compte du côté de la population civile 3 morts et 10 blessés. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et la sûreté française. Il est à remarquer que pendant le massacre, la police allemande n'est intervenue à aucun moment. Quelques arrestations ont été opérées dans la matinée. Une dépêche de Mayence donnait d'autres détails. Une 30aine d'autonomistes ont été attaqués le 12 février au soir à Pirmasens, dans le bâtiment de la sous-préfecture, par une troupe de 500 à 600 hommes armés et soutenus par les pompiers. Ceux-ci ont mis la pompe en batterie. La plupart des assaillants étaient armés de fusils Mauser et avaient pris position dans les maisons situées en face de la sous-préfecture. Dès le début de l'attaque, un inconnu a fait sonner le tocsin. Les assaillants ont incendié le bâtiment de la sous-préfecture à l'aide de 150 litres de benzine. La résistance est prolongée jusqu'à 23h30. Les séparatistes se sont rendus lorsque l'incendie a eu gagné le deuxième étage. Le commissaire du gouvernement autonome, Schwab, a été tué d'une balle au cœur. Les pertes des assaillants sont importantes. La sûreté de Landau a arrêté dans la nuit un individu qui, armé d'un marteau, avait pris une part active à l'attaque. Il est à remarquer que les pompiers et les policiers qui se trouvaient sur les lieux étaient en général pris de boisson. D'après les Düsseldorfer Nachrichten, il y avait 27 tués et une vingtaine de blessés. Un journaliste du Temps, s'étant rendu sur place, en rapporta ses impressions. 20 février, par cette glaciale journée d'hiver, Pirmasens, avec les bandes de chômeurs qui flânent dans ces petites rues tortueuses et des visages effrontément les Français civils et militaires, produit une impression sinistre. Cette population fanatisée a applaudi et collaboré au massacre et à l'incendie du 12 février. Dans les lieux publics, on répète « Nous nous sommes fait la main sur les séparatistes. Maintenant, ce sera le tour des Français, et cela ne traînera pas. » Cette humeur belliqueuse se manifesta par des insultes aux membres de la délégation de la Haute Commission. Le délégué, le commandant Fenoul, a remis à leur place vertement des collégiens insolents et a dû se servir de sa canne pour écarter un individu qui le bousculait. Le soir tragique, le commandant était absent de Pirmasens pour affaires de service. À 6h, un quart d'heure après son retour, les premiers coups de feu éclataient. Les 300 assaillants, aidés par les pompiers et acclamés par une foule compacte qui sympathisait avec eux, commencèrent le siège de la sous-préfecture. On apporta de l'étoupe qu'on imbiba d'essence. Les chefs avaient les poches pleines de billets de banque français. Ils distribuaient 100, 200, 300 francs aux plus audacieux qui, rasant les murs, s'accrochant à leurs aspérités et aux gouttières, propagèrent le feu jusqu'au deuxième étage. « ça brûle !» hurlait la foule en battant des mains, ne reculant pas d'un pouce malgré la fusillade défensive des séparatistes. En ville, on savait depuis plusieurs jours qu'on enfumerait les séparatistes dans leurs repères. Les autorités d'occupation, bien que très inquiètes, ne savaient rien de précis. Les bureaux allemands de la sous-préfecture avaient même déménagé avec leurs archives 8 jours auparavant. La préméditation ne faisait donc aucun doute. À Heidelberg, on était tenu au courant par téléphone des différentes phases du drame. Des affiches collées au tableau noir de l'université annonçaient aux étudiants, délirant d'une joie sauvage, les progrès de l'œuvre de mort et de destruction. De notre côté, le commandant Fenoul demandait vainement aux téléphonistes allemands de lui donner la communication avec Deux-Ponts ou Kaiserslautern pour avoir du secours. On ne lui répondait pas, on se moquait de lui, ou bien même, quand il était déjà trop tard, on coupait la conversation à peine amorcée. À Pirmasens, depuis longtemps, le délégué avait réclamé un central téléphonique militaire pour ne pas être à la merci des sabotages des téléphonistes allemands. L'obtiendra-t-il maintenant ? Il avait insisté aussi pour avoir une garnison dans cette turbulente ville ouvrière de 46 000 habitants. Le soir tragique, il y avait à Pirmasens 25 Marocains commandés par un adjudant. Cette section suffisait à peine pour garder son matériel, le siège de la délégation la gare et la douane. L'adjudant n'était pas qualifié pour prendre la grave décision d'intervenir. D'autre part, le commandant Fenoul représente la haute commission, il est donc un fonctionnaire civil. Telles sont les beautés du dualisme établi dans les pays occupés. Pour augmenter la confusion et favoriser les nationalistes, le bourgmestre plongea la délégation dans l'obscurité en coupant le courant électrique. Il ne le rétablit que sur la menace de son arrestation après 35 minutes de protestation de notre côté et de défaite du sien. À Deux Ponts, il n'y avait pas de locomotive chauffée. Il fallut attendre le passage d'un train. On lui prit sa machine. La compagnie de tirailleurs arriva à Pirmasens à 10h30. Tout était fini, les séparatistes massacrés, brûlés, la sous-préfecture incendiée. Cette audacieuse offensive était préparée minutieusement par la direction et la rédaction du journal de Pirmasens qui avait essayé d'attirer les séparatistes dans leur immeuble où on les aurait abattus. Ces malheureux n'évitèrent ce piège que pour tomber dans un autre guet-apens après leur capitulation. Pendant la bataille, un de leurs parlementaires fut tué à coups de hache. La compagnie de secours, progressant péniblement à travers les rues obstruées et barrées avec des cordes par les nationalistes, ne put que disperser environ 15 000 habitants qui avaient assisté au drame et applaudi à ces atrocités. Complicité certaine de toute une ville, mais pour le plus grand monde, complicité morale. Nos soldats, même par juste représailles, ne tireront jamais sur une foule désarmée. Les conditions atroces dans lesquelles se déroula cette tuerie, la façon dont les soldats français assistèrent au drame sans tenter d'en arrêter l'horreur, ne laissèrent pas de surprendre. Le général Mordac, dans son livre sur la mentalité allemande, ne craint pas de dire où sont les responsables. Dès les premiers coups de feu, écrit-il, l'adjudant-chef de section rassembla sa troupe et voulut exécuter les ordres qu'il avait reçus de l'autorité militaire. Mais le commandant F., représentant de la haute commission interalliée, revêtit son uniforme et prescrivit au malheureux sous-officier de n'en rien faire, déclarant qu'il venait de recevoir de Paris, donc du gouvernement, l'ordre de ne pas intervenir et d'observer une stricte neutralité. L'adjudant voulut téléphoner à ses chefs, mais on lui répondit que tous les téléphones étaient coupés. Or, le téléphone avec Speer fonctionnait toujours, puisque le commandant F., quelques jours après, m'avouait que l'ordre de ne pas faire intervenir la troupe lui était venu du délégué supérieur de la haute commission interalliée à Speer. Quoi qu'il en soit, le massacre fini, des sanctions suivirent, de très vagues, de très pâles sanctions. La circulation de nuit, la circulation des automobiles furent interdites, etc. Du temps passa. Et M. Poincaré, qui, lors des événements de Pirmasens, était président du Conseil, ne parla jamais plus du mouvement de la Rhénanie indépendante. Il y a des souvenirs qu'il vaut mieux ne point évoquer.